si on écoute cet évangile d'une manière un petit peu simple, on comprend essentiellement une leçon de morale qui consiste à ne pas réduire la vie religieuse à l'application rigoureuse des règles qu'elle prescrit. C'est souvent ce qu'on retiendra de l'attitude de certains maîtres ou certains directeurs de conscience qui en viennent à donner excessivement de poids à la lettre des commandements au point d'en oublier le but dans la recherche exclusive du royaume des cieux. Le reste étant donné par surcroît, dit le Christ. Le Christ a condamné cette attitude lorsqu'il maudit les pharisiens qui, dit-il, lient de pesants fardeaux et les mettent sur les épaules des hommes tout en se refusant à les remuer du doigt. Si souvent nous entendons dans les quatre évangiles rapporter des récits de guérisons effectuées par Jésus le jour du sabbat avec une insistance qui dépasse la simple leçon de morale, il y a certainement une autre raison que simplement relativiser l'importance des lois et notamment celle du sabbat. Et vous avez entendu dans ce récit de cette femme courbée, Jésus précise, il fallait précisément, justement, que ce soit un jour de sabbat qu'elle soit délivrée de ce démon qui la tenait. Alors, il faut réfléchir peut-être un petit peu sur cette notion du sabbat. L'origine du sabbat, nous la connaissons tous, se trouve dans le récit symbolique de la création en 7 jours qui figure au début du livre de la Genèse. Ces 7 jours sont non pas des unités de temps successives, mais des étapes dans le passage progressif du rien, du néant primordial à la plénitude de la vie divine. Les 6 premiers jours posent les jalons qui aboutissent à la fin du 6e jour à la création de l'homme qui apparaît comme le couronnement de la création en même temps que son but. Puis il est dit que Dieu bénit et sanctifia le 7e jour et se reposa de l'œuvre qu'il avait faite. Nos semaines sont à l'image des 7 jours de la création et le 7e jour est un jour de repos en même temps qu'il est béni et sanctifié. Mais en fait, cette notion de repos est aussi un petit peu superficielle. En fait, Dieu ne se repose pas, comme l'atteste le Seigneur, à propos justement d'une guérison un jour de sabbat, celle du paralytique. Il dit « Mon Père est à l'œuvre, et moi aussi je suis à l'œuvre ». Voyez-vous, ce jour du sabbat, précisément, le Père est à l'œuvre et le Christ, le Seigneur, est à l'œuvre aussi. Alors, quelle est cette œuvre? Cette œuvre, c'est évidemment de conduire l'homme à son salut, comme la brebis perdue est ramenée au bercail. Et comme le dit notre liturgie, lorsque le prêtre, s'adressant au Père céleste, durant la prière de l'offrande, il dit « Tu n'as pas renoncé à tout faire jusqu'à ce que tu nous aies élevés au ciel et nous aies fait don de ton royaume à venir. » C'est ça l'œuvre du 7e jour. C'est pourquoi ce jour est béni et sanctifié. L'insistance avec laquelle le Christ opère des guérisons le jour du sabbat, c'est pour signifier que ces guérisons sont des figures de notre incorporation dans le royaume. Il rend aux personnes guéries la santé et la beauté corporelle qui sont à l'image de la santé et de la beauté spirituelle de l'homme qui est devenu semblable à Dieu, qui est passé de l'image à la ressemblance pour laquelle il a été fait, pour laquelle il a été façonné de la main amoureuse du Créateur. Si vous lisez attentivement dans la création, dans le récit de la création, toutes choses sont créées, sauf une, l'homme. Il n'est pas créé, il est façonné, il est fait. Pour l'homme seul, ce passage de l'image à la ressemblance est impossible. Mais le Christ s'est chargé de notre humanité, lui qui est non pas à l'image de Dieu, mais véritablement l'image du Père. Et il est venu habiter parmi nous, mourir et ressusciter pour que nous ressuscitions avec lui. La participation à la résurrection du Christ est notre chemin de salut. Il n'y en a pas d'autre. Et pour nous, chrétiens, le véritable sabbat que préfigurait le sabbat du Premier Testament, c'est la résurrection du Christ. C'est pourquoi le repos hebdomadaire a été transféré aussitôt après la résurrection du Christ, du samedi au dimanche. Et ce jour est devenu pour les chrétiens le jour de la semaine consacré à Dieu en même temps que le mémorial de la résurrection. Dès les temps apostoliques, les chrétiens n'ont plus célébré le samedi comme jour sanctifié, mais le dimanche, car c'est dans la résurrection du Christ que le mystère du sabbat trouve son accomplissement. Le dimanche est le mémorial de la résurrection du Christ. C'est un jour où nous réactualisons en nous-mêmes le lien vital, notre lien vital avec le Christ, où nous nous soucions du sens spirituel de notre vie, où nous nous efforçons de nous redresser, comme la femme de l'Évangile qu'on lisait tout à l'heure, pour élargir notre horizon quotidien. Voilà, quand je suis courbé, je vois que mes pieds, mais si je me redresse, je vois tout le monde entier. Tout notre horizon n'a pas de limite. Pour ouvrir notre cœur à la présence du Saint-Esprit, partout présent et emplissant tout. Je ne m'étendrai pas plus sur cette notion du sabbat. Je rappelle, voilà, simplement, je redis, pour nous, le sabbat, c'est la résurrection du Christ. Je voudrais dire deux mots de Saint Nicolas. Nous fêtons aujourd'hui Saint Nicolas. Nicolas, c'est un prénom très, très courant. J'ai noté qu'il y avait près de 400 000 Français qui s'appelaient Nicolas. Et si on y ajoute les Nicoles, ça fait au total presque 700 000. Presque 1% de la population est sous la protection directe de Saint Nicolas. Alors qui était ce Saint Nicolas? C'était l'évêque de Myre en Lycie. Alors ça ne nous dit pas grand-chose parce que ni la Lycie ni Myre, on sait ce que c'est. Myre, c'est une ville de ce qui est aujourd'hui la Turquie, donc l'Anatolie, et qui est située tout à fait au sud, sur la côte, enfin pas exactement sur la côte, mais dans la région qui est face à Chypre, si vous voulez. Voilà, et Nicolas, il a rapidement été évêque de Myre, et il est connu pour de nombreux miracles qu'il a faits, mais aussi pour sa vie, pour toutes les actions charitables de sa vie. Et il est ainsi, à travers toutes ses œuvres, le protecteur des enfants, le protecteur des veuves, des personnes faibles. C'est un homme bienveillant et généreux. Il est aussi le protecteur des marins. Plusieurs fois, il a sauvé des navires en perdition, soit avant sa mort, soit après sa mort. Bien des fois, il a fait beaucoup de miracles encore après sa mort. Et il est connu dans toute la chrétienté, de l'Orient à l'Occident. Et en Occident, toutes les régions du nord de l'Europe ont une grande vénération pour Saint Nicolas. La Lorraine, en particulier, en plein XVe siècle, dans les guerres incessantes qu'il y avait déjà dans ces régions de l'Europe moyenne, le duc de Lorraine a affronté un de ses ennemis qui était Charles le Téméraire. Enfin, je ne vais pas faire une leçon d'histoire, mais il était en infériorité numérique, militaire, et il a prié Saint Nicolas et il a eu la victoire. Et depuis ce jour-là, alors, en Lorraine et dans toutes les régions avoisinantes, Saint Nicolas est devenu le patron. On le prie aussi, il est vénéré dans toute l'Allemagne, en Autriche, en Belgique, aux Pays-Bas, en Suisse, et je ne parle pas des pays de l'Est, la Russie a une grande vénération pour Saint Nicolas, la Hongrie, la Pologne et d'autres. Voilà. Alors on en a fait le bonhomme aussi qui vient récompenser les enfants sages. Bon, là c'est la légende, mais voilà, dans la nuit du 5 au 6 décembre, il descend par les cheminées et distribue des friandises aux enfants sages, des petits pains à l'effigie de l'évêque, etc. C'est pour, voilà, il est devenu très 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 populaire et très. Mais c'est un. Ah oui, je voudrais dire encore une chose. Il a été donc enterré dans son pays d'origine. Il est mort en 350, dans ces eaux-là, 350, 360. Donc la chrétienté, enfin la foi chrétienne était déjà autorisée, c'était sous Constantin. Il est mort donc à Myre et on a construit une église pour accueillir son tombeau. Voilà. Et lorsque l'Anatolie, toutes ces régions d'Asie mineure ont été prises par les musulmans, des Italiens et les Italiens du Sud et des Normands d'ailleurs, qui étaient aussi en Sicile, ont fait une expédition pour récupérer le tombeau les ossements de Saint Nicolas. C'était vers l'an 1000, voilà, au moment où la chrétienté se déchirait, se coupait en deux, mais là elle est restée unie. Saint Nicolas, c'est un symbole de l'unité chrétienne. Parce que, voilà, on est venu chercher ses ossements pour les ramener dans un pays qui n'était pas soumis à l'islam, qui était donc l'Italie du Sud, et il est maintenant, on peut aller vénérer son tombeau à Paris. Bari, c'est tout à fait au sud de l'Italie. Et il y a toujours, disons, des processions et des pèlerinages très très actif à Bari. Si vous avez l'occasion d'aller dans cette région du sud de l'Italie, ne manquez pas d'aller à Bari. Je terminerai pour dire que nous entrons dans la deuxième partie du carême de Noël. Nous avons à peu près fait la moitié et il nous en reste la moitié. C'est le moment de mettre la pression, de resserrer les liens. Au début, on fait peut-être ça d'une manière un petit peu douce, tranquille, mais voilà, maintenant on arrive dans le sport, dans la dernière ligne droite, et donc il faut être renforcé et songer que, au fond, cette fête de Noël qui nous attend maintenant dans même pas trois semaines, ça n'a de sens que si vraiment le Christ vient naître, vient faire sa demeure en nous, dans notre cœur. Et c'est pour ça le sens du carême. C'est nettoyer, voilà, c'est le moment du grand nettoyage. Du grand nettoyage, on se restreint d'une manière générale. Il faut se restreindre. On se restreint sur la nourriture, on peut aussi se restreindre sur les plaisirs, les distractions, etc. Hein, la télévision, il n'y a plus beaucoup de cinéma et de théâtre en ce moment. C'est dommage. C'est dommage pour la société. Mais du coup, ne vous reportez pas trop sur la télévision, mais reportez-vous aussi sur la prière. Et puis, n'oubliez pas que dans le carême, il y a aussi la confession. C'est une manière aussi de se vider, de se relâcher de toutes les lourdeurs, de tous les poids qui nous encombrent, de façon à nous redresser. Voilà. Alors,